Il y a une question que je voudrais poser à Anne.
Oui.
À un moment, tu dis... ce que l'on n'a pas, mais tu dis quand même... Dans la vie, nous avons quand même à donner quelques objets, pas comme preuve de l'amour, mais si seulement du précieux pour nous, de l'existence... de l'autre, de nos autres. Tu fais référence à quoi ?
Moi, je fais référence à ceux qu'on aime autour de nous, c'est-à-dire les êtres chers qu'on a tous et auxquels on tient. Hein, c'est simplement... Je veux dire, ne jamais répondre à la demande par des preuves, etc. C'est vraiment le discours analytique, c'est dans l'analyse. Hein. Mm-hmm. Dans la vie, on peut quand même... donner des choses, quoi. Il me semble, hein. Il me semble, c'est ça que je voulais dire, hein. C'est que la cèse, si on peut dire d'une certaine façon, et de l'analyse, c'est effectivement ne pas répondre à la demande, ni d'amour, ni n'importe quelle demande. Mais n'importe quelle demande portant toujours quelque chose d'inscrit sur la demande d'amour. Pour la demande d'amour. Voilà ce que je voulais préciser.
Ces trois exposés très très riches, chacun de façon très différente. Alors, je voulais poser une question d'abord à Anne et on verra après sur le cœur en fait de ton exposé, parce que je crois que j'ai raté le coche qui m'aurait permis de saisir la réponse que tu as portée à la question. Mmh. Alors, si j'ai bien remarqué qu'à un moment donné de ton exposé, tu annonçais que tu allais donner la réponse à la question, d'où part ce qui est capable de façon non nécessaire, non suffisante de répondre à la jouissance du corps de l'autre. Hein? Tu as bien dit que ça part de l'exigence de l'un dans la parole.
Oui, c'est ça.
Hein? Alors, j'aurais voulu, si ça paraît pas trop demandé.
J'aurais voulu. Ici, si on peut demander.
J'aurais donc voulu que tu reprennes ça, que tu nous explicites un peu ça, parce que j'ai pas suivi le raisonnement qui t'a amené à conclure ça. Voilà.
Ah bah, si tu veux, j'ai suivi quand même le texte absolument de Lacan.
Oui,
ça... que j'ai essayé, c'est-à-dire. Il réfute pas l'amour, pas les traces sur le corps, pas, bon, il a comme ça toute une série de choses, puis ensuite il parle de la jouissance phallique, il parle de la jouissance féminine, et il répond que c'est ça, hein, qui est une des réponses non nécessaires, non suffisantes, qui peut, disons, accrocher la jouissance féminine à quelque chose par le un. Hein, par le un venant de l'homme. Enfin, je pense que c'est ça que j'ai compris. Hein. C'est-à-dire, c'est toute la fin du paragraphe où il y a simplement des petites réponses, finalement. Hein. Non suffisant, non nécessaire. Donc, ça veut dire que c'est complètement la contingence de la rencontre qui fait que, par rapport à une jouissance féminine infinie, quelque chose peut s'arrimer, hein, est appelé, c'est les appelants du un finalement, hein, c'est ça, est appelé pour qu'il y ait une réponse qui fasse un unique pour elle. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai entendu la réponse à la question que pose Lacan au début. Voilà. Je ne sais pas si je réponds tout à fait bien, parce que pour moi, ce n'est pas complètement clair tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Hein? Voilà, les appelantes de... Enfin, je dis appelantes, d'ailleurs, je crois que c'était une expression de Colette Solaire. C'est pas les appelantes de l'amour, mais c'est les appelantes... Oui, il l'appelle aussi. C'est du 1, quoi.
Les écrits.
Oui, oui, oui. Alors, bon, l'histoire de Don Juan m'a jamais satisfaite. Ça doit être que j'aime pas trop les Don Juan. Mais je ne comprends pas ce qu'il dit là-dedans.
Mais Lacan lui-même l'explique par ailleurs. C'est le fantasme féminin est un homme qui soit toujours prêt.
C'est ça, comme les scouts.
Oui.
C'est ce que je dis. Mais enfin, moi, je pense, ça me satisfait pas cette réponse, je trouve. Enfin, bon, pourquoi pas. Je pense que Don Juan, ce qui excite beaucoup les femmes, c'est que il y a une espèce de rivalité. Enfin, il y a une femme et une femme et une femme. C'est que celui-là, il veut toujours avoir une femme, mais il veut pas. Ça lui est insupportable qu'on refuse. Et là, je pense que quand elles sont dans l'axe de Don Juan, c'est une façon d'exister très importante. Elles sont uniques.
Elles sont assurées d'être du côté femme.
Voilà. Mais c'est ça qui est épinglé par le 1. C'est ça, simplement. Sa réponse, c'est une réponse un peu qui soutient l'indicible de l'être sexué féminin. Hein, c'est ça que je pense. C'est ça, le 1. Le 1 venant de l'autre. Enfin, c'est ce que j'essaie de piger dans ce texte. Hein, c'est pas ça.
Juste un petit mot, parce qu'on joue Don Juan en ce moment. À la Comédie Française, le Don Juan de Molière, pas celui de Da Ponte. Et c'est un texte très très frappant. Je ne l'avais pas revu depuis très très longtemps. Et c'est vraiment une figure d'exception, Don Juan. Le personnage est assez d'un froid dans le dos par moment. Hein. Donc c'est un personnage qui incarne vraiment, là on était un peu dans le thème, donc j'étais sensible à ça, qui incarne l'exception. Hein, c'est un homme qui n'obéit à aucune loi que celle qu'il se donne lui-même et qui incarne vraiment un homme d'exception. Donc, de ce côté-là, on saisit aussi que ça peut avoir son effet.
Pour dialoguer avec toi, Anne, moi j'ai l'impression que la façon dont Lacan traite de Don Juan, c'est une façon logique. C'est-à-dire, comme il n'y a pas la femme de l'exception, hein, et que lui, c'est ça qui l'intéresse, il est obligé de chercher l'exception dans chacune. C'est-à-dire le fait qu'elle n'est pas toute, que chacune n'est pas toute. Et donc, il faut qu'il fasse, il est obligé de faire la somme. De faire la somme, de les avoir une par une. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Hein, comment ?
C'est lui l'exception, il me semble.
Oh.
Qu'est-ce qu'il aurait d'exceptionnel ?
Reprends le texte de Molière, tu vas voir.
Oui, oui.
Tu vas lire.
Il y a quand même affaire, il a quand même affaire au commandeur. Enfin, moi.
Mais il y a deux questions avec Don Juan. Il y a qu'est-ce qu'on peut dire du personnage de Don Juan et en quoi c'est un fantasme féminin. Hein, c'est un Ben Midi, un mythe féminin. Ailleurs, il dit un fantasme. Il dit que c'est sa fille qui le lui a fait remarquer, que c'était un fantasme féminin. Moi, je croyais avoir compris, en tout cas, en quoi c'était un fantasme féminin, puisque l'expérience commune, c'est que ce n'est pas toute femme qui peut plaire à tout homme. Hein. Et avec Don Juan, chaque femme est assurée de plaire à cet homme. En tout cas, de l'intéresser pour les buts qui sont les siens. Et donc, en ce sens, c'est un fantasme féminin qui soigne l'inquiétude de l'insuffisante séduction. Un homme dont on est sûr que si on passe devant, il va courir derrière. Écoutez, c'est pas tous les jours que ça se produit. Bon, donc vraiment... Je le formule comme ça pour faire comprendre, parce que je crois que c'est simple comme ressort.
On va intéresser au moins à un.
Celui-là, on est sûr. Alors que, bon, il faut se donner du mal parfois. Et bon. Après, qui est le personnage de Don Juan chez Molière? Alors, c'est vraiment autre chose. Je ne sais pas si c'est une exception, mais en tout cas, L'essentiel, c'est quand même pas qu'il les séduit toutes. L'essentiel, me semble-t-il, c'est quand même qu'il défie le commandeur.
C'est ça.
C'est le libertin, l'incrédule, le... Bon. Donc... Hein?
Ils
ne se rompent pas et il n'a peur de rien, jusqu'au peut-être au coup de tonnerre final. Alors sur l'histoire de Anne, vous avez trouvé une réponse que moi je ne trouve pas. Vous avez invoqué ce paragraphe comme réponse à la question d'où part la jouissance. Non, je ne vois pas que ce paragraphe réponde à d'où part la jouissance.
Le une par une et tout ça ?
Oui.
C'est ça que vous voyez ?
Ben si, je vois bien le une par une, mais ça ne répond pas, selon moi, à la question d'où part la jouissance. Ça nous dit qu'il y a ça formule la dissymétrie entre un côté, enfin le côté homme et le côté femme. Ça nous explique que cette dissymétrie ne vient pas de l'organisme. Personne n'a commenté quand même. Vous n'avez pas souligné aucun d'entre vous que quand il parle des signes bizarres. Ce sont les signes venus de la vie, ce n'est pas les signes venus de l'autre. Hein, les caractères secondaires, puis ils se réfèrent aux germaines. Donc, c'est vraiment les signes du corps organique.
Oui, oui.
Bon.
Oui, oui, oui.
Donc, il nous dit bien, ça ne part pas de ça.
Ça ne part pas de l'amour.
Ça ne part pas de l'amour. Ça dépend de l'autre. Et l'autre, oui. L'autre est dissymétrique. Mais oui, il ne nous dit pas d'où ça part.
Mais il n'y a aucun endroit où il le dit.
Ben non, c'est ça, il n'y a aucun endroit où il le dit.
Il propose cette réponse qui ne résout pas le d'où, mais qui accroche quelque chose de l'histoire d'amour entre hommes et femmes. Enfin, de la sexualité entre hommes et femmes.
Oui, parce que là, il ne s'agit pas de l'amour.
Il s'agit de sexualité.
Oui, bon, c'est...
Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune réponse.
Oui, non, je pense qu'au moins, pas dans ces chapitres, jusqu'à ce qu'on a pu travailler. Et moi, je suis restée avec l'idée que cette réponse, si elle est là, elle est insaisissable, justement. Alors, on ne pourra pas l'attraper vraiment. Il n'y a pas de réponse à cette question, quelque part, à mon avis. C'est quelque chose qui va toujours échapper. C'est un peu de ça que j'ai souhaité... parler un peu. On va voir pour la suite du séminaire, mais je pense pas qu'il va vraiment donner des réponses à ça. Je pense que ça va rester d'où part on va chercher longtemps.
Disons que c'est une solution qu'il donne à quelque chose qui peut être suffisamment insupportable peut-être pour se raccrocher à l'autre partenaire, au partenaire. Mais enfin, j'en sais rien. C'est une solution.
Oui, moi je l'entendais plus. Ta réponse, je l'entendais plutôt du côté de l'amour, alors que justement, il nous dit que ça n'a rien à voir avec l'amour. Parce que si tu dis d'où part ça, et que tu dis ça part de la nécessité ou de l'exigence de l'un dans la parole, l'exigence de l'un dans la parole, on est dans le registre de l'amour, et pas ailleurs. Enfin, c'est ça, à la fin de son texte, c'est là-dessus qu'il brode beaucoup. Donc moi, je pense qu'effectivement, il ne répond pas à la question d'où ça part. Et par contre, ce qu'il décrit beaucoup, c'est que ce n'est pas le signe de l'amour. Je crois que c'est pour nous... la chose la plus
évidente
et plus, la plus opérante aussi, parce que
il fait semblant de répondre, mais il ne répond pas, parce qu'il dit tout à fait au début, ça ne part pas de l'amour, c'est de l'amour que ça part. Et après, il va développer en alloulant ça. Il va dire, mais c'est toujours insuffisant et non nécessaire. Il annule tout ça, les restes du chapitre. J'essaie de développer un tout petit peu ça, en montrant qu'après, il démolit un peu sa première réponse.
Il démolit toutes ses réponses au fur et à mesure.
Ouais, il est craque, il adore ça.
C'est le 1 du texte, mais qui ne répond pas effectivement à la jouissance. Enfin, la jouissance féminine.
Il m'a semblé que justement, si le terme important c'est un mur, c'est pas dans ce séminaire qu'il faut le chercher. C'est vraiment dans les conférences à Sainte-Anne. Il y a trois séances là-dessus où il en parle très longuement. Et c'est ce qui est derrière le mur. C'est un réel qui travaille derrière le mur, alors que le mur, c'est toujours le lieu de la copulation signifiante.
C'est derrière le mur ou c'est entre les murs? Parce que j'avais compris avec d'autres lectures que c'était les murs entouraient quelque chose, un espace où il y avait quelque chose de l'objet dedans. Mais bon, ça, il parle pas de tout ça dans ce chapitre.
Il me semble qu'il y a quand même une réponse précise, sauf qu'elle est négative.
Oui.
Hein? Il est parti sur la question, la jouissance du corps qui symbolise l'autre n'est pas le signe de l'amour. Bon, très bien. Et puis on arrive à la jouissance en tant que sexuelle et phallique, c'est-à-dire qu'elle ne se rapporte pas à l'autre comme telle. Autrement dit, on ne jouit pas du corps de l'autre.
Oui.
Bon, mais ça c'est positif, c'est une réponse négative, mais positive. On ne jouit pas du corps du partenaire, en fait.
Oui, c'est ça, ça passe par l'autre.
La jouissance est phallique, et c'est une jouissance du langage ou jouissance de l'inconscient. Mais ça, c'est une réponse positive, négative, mais qui dit quelque chose de précis sur la question posée. La jouissance est phallique, autrement dit, on ne jouit pas du corps de l'autre en tant que la femme qui est là. De l'objet femme, c'est pas du corps objet femme dont on jouit, dont l'homme jouit, c'est pas du corps, ça passe par l'inconscient. Oui. Donc on jouit de son inconscient, rien à voir avec l'amour,
hein,
rien à voir.
Quand je pensais à présenter ici les cas de ces messieurs, c'était parce que j'ai pensé à ça. J'ai trouvé tellement littéral qu'il envoie sa femme, les corps de sa femme, ailleurs. Et, littéralement, hein, c'est ça. Et qu'elle revienne pour parler de quelque chose qui concerne son histoire, cet autre avec un grand A. J'ai pensé justement à ça. J'ai vu Mance, mais là, son inconscient. Et quand tu parles de symptômes, c'est vrai que ces choses s'enchaînent, non pas forcément dans ces chapitres, mais c'est de ça que ça parle de ça aussi, hein, je crois. Il sollicitait dans son histoire de jouissance à chaque fois quelque chose de son histoire qu'il ne savait même pas officiellement jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc quelque chose de vraiment de l'ordre de l'inconscient. Agnès avait sollicité. Après Marc.
Je sais pas beaucoup de fois, mais c'était juste une question suite à l'affirmation de Colette, enfin de tout le monde, on ne jouit pas du corps de l'autre, et pourtant le corps de l'autre a une fonction, puisqu'on se retrouve dans le lit ensemble quand même avec le corps, et je me demande dans cette logique-là, quelle est alors la fonction du corps charnel de l'autre, si ce n'est pas pour la jouissance, quelle est sa fonction ?
Un support.
Non, mais c'est-à-dire, moi j'ai essayé de mettre l'accent sur le fait que Lacan écrive ça, le corps de l'autre avec un grand A, et pas le corps du partenaire.
Oui,
c'est pas du tout du corps du partenaire qu'il s'agit.
Mais
le corps du partenaire, il est là, et c'est pas ça qui est en cause dans cette jouissance-là. Enfin, le cas raconté par Sylvana est assez clair là-dessus. Mon bonhomme qui se travestit, c'est la même chose. Enfin, le corps réel du petit autre ne l'intéresse pas du tout. C'est le corps tel qu'il s'imagine lui-même. C'est un corps purement symbolique. Et on retrouve ça, c'est une thématique qu'on retrouve très bien dans les anorexies, par exemple. l'anorexique, elle a beau être maigre comme un clou, quand elle se regarde, elle se trouve belle. Elle se voit pas maigre, parce qu'elle se regarde, elle regarde pas son corps, elle regarde le corps de l'autre, c'est-à-dire elle se regarde depuis un point symbolique, extrêmement exigeant, etc., etc. Donc là-dedans, la rencontre avec le réel du corps de l'autre, c'est pas de ça dont il s'agit dans ce texte-là. Maintenant, comment on peut traiter ça ?
Agnès a compris ça, je crois. Sa question, c'était, mais donc, qu'est-ce qui fait les corps du petit autre dans l'histoire ?
Et pourquoi on a de la sexualité, quoi ? Pourquoi on va avec quelqu'un, finalement ? Pourquoi on couche ? Parce que si c'est effectivement que dans l'autre, il n'y a pas de corps, on pourrait ne pas du tout avoir de sexualité, ce qui arrive parfois pour certains.
Mais qu'est-ce qui nous précipite sur quelqu'un ? Au point de le... serrer dans ses bras et autre chose.
Ce genre de choses explique les décalages énormes qu'on observe dans la vie amoureuse, où des gens ont des vies sexuelles absolument débridées avec des partenaires de rencontre et qu'ils n'aiment absolument pas. Et à côté de ça, donc là il s'agit du corps, sans doute du réel du corps, hein, et à côté de ça, l'amour c'est autre chose. L'amour c'est impossible avec quelqu'un qui est jamais là, ou pas là au bon moment, enfin avec plein de distance, etc. Mais c'est plutôt comme ça que je...
Je ne sais pas si je vais m'approcher du tout, mais c'est vrai que c'est une question, c'est une vraie question. En t'écoutant et pensant à ce monsieur avec sa femme, je ne pense pas que ce soit la réponse, hein, pas du tout, mais c'est ce qui m'a fait penser. Ces corps-là représentent la femme qu'il aime. Il y a Marc, après Louis Iskovitch.
Oui, je ne vais pas entrer dans la discussion qui vient d'avoir lieu, parce qu'il me semble que Lacan parle comme beaucoup de la façon dont le partenaire représente l'objet A, pulsionnalisé, etc. Mais il me semble, à vous avoir entendu aujourd'hui, qu'il y a une divergence, pour ne pas dire une discordance de lecture, et j'aimerais être sûr de là où on met les pieds. Il me semble qu'Anne, tu as entendu la phrase telle qu'on a commencé à la commenter à la suite de l'exposé de Colette, c'est-à-dire la jouissance du corps de l'autre, c'est effectivement l'autre partenaire féminin. Jouissance du corps de l'autre, c'est au sens subjectif du génitif. Mm-hmm. Alors qu'il me semble que Sylvana et Bernard, vous avez parlé de la jouissance du corps de l'autre au sens de l'objet. L'objet dont jouit le sujet. Et vous avez parlé de deux cas masculins et du statut du corps féminin pour ces cas masculins. Et vous avez parlé de la jouissance phallique, plus ou moins heureuse, de vos oseaux. Mais vous n'avez pas parlé de la jouissance du corps de l'autre au sens de la jouissance féminine.
Moi non plus.
Dans votre exposé.
Moi non plus. Dans mon introduction, pas du tout.
J'ai pas du tout.
Même réfuté ça. Je l'ai réfuté.
Donc tu parlais de la jouissance.
Je parle là quand de la jouissance que l'homme prend d'une femme.
Prend d'une femme.
Mm-hmm.
Alors,
au sens objectif.
Jouir du corps de la femme.
Alors la question quand même que je voulais vous poser par rapport à ça, c'est comment vous situez le fantasme justement par rapport au terme que Lacan brasse dans cette leçon. Est-ce qu'on peut dire que ça vient du fantasme ? Alors, la jouissance du corps de l'autre n'est pas le signe de l'amour, mais serait-elle le signe du fantasme, alors ?
Non. Colette va répondre, c'est mieux. Allez, Colette. Non, il y avait d'abord Louise qui avait demandé la parole.
C'est pas tout à fait la même chose, donc peut-être vous pouvez répondre, Colette.
D'accord.
Sinon, on
Colette,
un
tu
peu.
Commentes d'abord.
Ah, oui.
l'objet A est impliqué dans le fantasme. L'objet A est impliqué dans le fantasme qui soutient le désir. Hein ? Ok ?
Pardon, tu peux répéter ?
Et quelle est la jouissance engagée dans le fantasme ? C'est la jouissance pulsionnelle. Ce n'est pas la jouissance phallique. Jouissance pulsionnelle est dans le fantasme. Et elle s'écrit jouissance en plus. Et la jouissance phallique, elle est dans le symptôme. Et donc, il est certain que le fantasme a une fonction pour le rapprochement des corps.
C'est ça.
Qui est la question soulevée par Agnès, peut-être.
Pour l'attirance.
Le fantasme a une fonction pour le rapprochement des corps. C'est le désir qui opère pour le rapprochement des corps. Mais la question de qu'est-ce qui fait que les corps étant rapprochés, on jouit ou pas, c'est pas le fantasme qui y répond. Je crois, hein, je crois.
Moi, j'ai ébauché une réponse. J'ai pensé aux symptômes.
Ben oui, la jouissance phallique, c'est le symptôme, c'est la jouissance.
C'est aux symptômes. Parce que faire de l'autre l'objet de sa jouissance, la métaphore de sa jouissance, c'est le signe qu'on en fait son symptôme.
Louise, les micros pour Louise, s'il te plaît.
Ça tombe bien parce que ça porte là-dessus ma question. Parce qu'on parle souvent de la question d'une femme symptôme pour un homme. Et en t'écoutant, je me disais que peut-être ça vaudrait la peine qu'on revienne. Parce que je ne suis pas sûr de t'avoir suivi. Est-ce que tu proposes qu'à chaque fois qu'il y a jouissance sexuelle pour un homme avec une femme, cette femme est à la place du symptôme? Je n'ai pas l'impression, mais... Mais bon, est-ce que tu proposes ça?
Pour qui est affligé du phallus? Qu'est-ce qu'une femme? C'est un symptôme, Lacan le dit comme ça. Pour certains, etc. Pour qui est affligé du phallus? C'est-à-dire pour qui veut se faire représenter par le signifiant, ce signifiant du phallus, qu'est-ce qu'une femme? C'est un symptôme. C'est hérésie.
J'essaie, mais tu réponds pas tout à fait, parce que si on se réfère à des faits cliniques, il y a des faits selon lesquels un homme peut avoir un rapport sexuel avec une femme et le lendemain, il l'oublie comme si ça n'a pas existé. Mm-hmm. Alors, est-ce que ça, on peut considérer comme un symptôme? C'est peut-être symptomatique. Comment? Oui, c'est ça. Est-ce que cette femme est un symptôme?
Mais non, c'est l'autre qui est un symptôme. C'est elle qui reste.
Non, mais c'est symptomatique, là. Donc, il faudrait... Oui, c'est ça. C'est ça le but de ma question.
Moi, je prends le symptôme dans la définition que j'ai cru comprendre dans les récits, surtout. C'est-à-dire, c'est l'idée... Pour l'homme, hein, c'est l'idée qu'il y en a une qui pourrait représenter l'irreprésentable. Hein? Et il croit à l'existence de cette une, puisque c'est une... Le symptôme, il l'écrit à ce moment-là comme ce qui vient comme représentation par rapport à petit a qui est irreprésentable. Hein? Et l'affaire symptôme, c'est croire que, justement, cette jouissance de son fantasme irreprésentable, il va pouvoir l'atteindre par l'intermédiaire, justement, du corps de cette partenaire. Donc, moi, je ne verrais pas de grande impossibilité ou de grand paradoxe à considérer que celui qui va voir la prostituée va du côté du symptôme, il va pas du côté de l'amour.
Donc, l'idée, ce serait que dans la thèse d'une femme symptôme, c'est pas la une élective. Ce n'est pas une une élective, et que toutes les unes de Don Juan, ce sont toutes des unes symptômes pour Don Juan.
Moi, je le verrais un peu.
Tu le verrais comme ça. Alors, ça suppose de définir le symptôme comme totalement disjoint de l'imaginaire. Un symptôme qui va s'écrire strictement entre symbolique et réel.
Oui, hein oui c'est ça. Ouais.
Et donc, ça laisse de côté, effectivement, les formations symptomatiques borroméennes. C'est un symptôme non borroméen, ce que tu décrirais là.
Ben, puisque, oui, non, parce que le symptôme borroméen, il l'écrit justement pour nouer, dans le Akkad, pour nouer le réel.
Oui, non, mais là, on est dans hérésie, et il l'écrit pas là. Hein. Il l'écrit entre symbolique et imaginaire, entre symbolique et réel. Donc, moi, je crois que, je ne sais pas si on discute sur des choses très déterminantes, là, parce que il y a plusieurs définitions du symptôme, il y a plusieurs configurations de symptômes. Alors, les symptômes borroméens, puis il y en a des pas borroméens. Et, bon. Le minimum de la thèse, c'est que le partenaire symptôme est un partenaire nécessaire à la jouissance de l'œuf. Il assure la jouissance, il est nécessaire. C'est pas qu'on jouisse de lui, c'est qu'il assure la jouissance de l'œuf. Ça, c'est la définition générale du symptôme, du partenaire symptôme. Après, dans les partenaires symptômes, il y a des partenaires non électifs et des partenaires électifs. Et ce n'est pas les mêmes. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose.
Sol.
Oui, juste un petit mot.
Moi, l'idée que je m'étais faite de la femme symptôme de l'homme, c'était l'idée que c'est le symptôme qui vient suppléer où il n'y a pas de rapport sexuel.
Aussi, bien sûr.
Et de ce fait, il me semblait que ce n'est quand même pas sans lien avec l'amour. J'avais du mal à concevoir ça simplement du côté de... Enfin, bon...
Voilà. Jean-Jacques Gorg. Je pense qu'il va falloir venir. Il faut venir.
Non, mais vas-y.
Non, mais surtout, c'est une petite remarque à propos. Tu as parlé des trois. Rendrait son titre, parce qu'il faut dire qu'il a été complètement effacé par Luner. C'est-à-dire, ça s'appelle le savoir du psychanalyste.
Bien sûr.
Je rappelle, c'est un séminaire. Puisque Lacan le désigne exactement comme ça, malgré les commentaires que fait ce séminaire qui sont très tendancieux, et puis le découpage qu'il a fait.
Oui.
Donc, si je fais cette précision, c'est aussi parce qu'il me semble que dans cette histoire de l'amour, puisque tu l'as cité, je crois que c'est assez important, parce que c'est important ce développement qui fait dans ce séminaire, et on sait bien que le mur ici a toute une série de valeurs, à commencer par le mur du langage.
Oui, le mur, c'est le mur du langage.
Voilà, c'est de ça dont il s'agit, et je crois que là, c'est comme ça que c'était présenté. Bon, après, il y a une ordre, tout ça, mais je veux dire, en même temps, en se mettant du côté en quelque sorte, du côté des fous, plutôt que du même côté du mur du langage, enfin bref, tout ça vient dans une série. et qui prend cette forme de la mue. Bon, ouais, c'était important de le rappeler parce que la femme est un petit peu plus sur ce que c'est que donc le rapport des sexes, le rapport des corps et tout ce qu'on a tout ce qu'on a développé, où effectivement on a du mal, c'est vrai, et Lacan on a du mal à dépatouiller ce qui est effectivement l'image du corps, l'habit, etc. Et effectivement, c'est-à-dire on a des formules qui sont un tout petit peu simples. On a tendance à simplifier le rapport, c'est-à-dire dès qu'il s'agit de, disons, d'image, enfin dès qu'il s'agit d'apparence, on a l'idée que c'est imaginaire. Or l'apparence peut être, quand c'est un habit, quand c'est un habit, c'est comme un masque. Ça a une dimension réelle et symbolique absolument, et c'est peut-être aussi autour de ça qu'on a la difficulté à départager ce qui relève justement, bon, c'est ce qu'on vient de stagner entre le corps symbolique, les morceaux de corps qui eux sont comme on disait pulsionnels, enfin c'est la même. Ça vient dans la même série, et cette espèce d'opacité du corps, et je pense que c'est là-dessus qu'effectivement, d'où vient la jouissance, c'est pas justement, on peut éventuellement, comme le Furet, avoir une petite idée de par où ça passe, mais peut-être pas de cette espèce de, comme ça, d'intérieur qui est.
Il y a même deux phrases bien précises dans le texte, qui ne donnent pas toutes les questions, mais que je veux souligner. C'est le passage qu'a souligné Anne. L'être sexué de ces femmes, pas toutes, ne passe pas par le corps. Bon, d'où, par où ça passe? Ça passe par la logique du langage. Et il arrive à cette formule, l'autre qui s'incarne. Voilà ce qu'est une femme. C'est de l'autre qui s'incarne, si l'on peut dire, comme être sexué exige cette une par une. Hein? Donc, ça c'est quand même... C'est quand même assez précis, hein. Ça répond un peu à la question d'Agnès, de façon un peu abstraite sans doute, mais ça répond à la question de pourquoi il faut le corps. Et quand on dit corps, on a tendance peut-être à trop s'imaginer la chair, le charnel. Le corps, c'est du un. C'est du un. Hein. On n'a pas beaucoup parlé des développements sur le 1 qu'il y a dans ces deux pages, mais ça se fera dans la suite, ça se fera dans la suite sans doute. Ça c'est très important, et c'est vrai que c'est l'anticipation de l'idée que on jouit de son inconscient. L'homme jouit de son inconscient, l'homme, pas la femme. L'homme jouit de son inconscient.
Pas la femme, quel homme?
Pas toute, pas phallique, pas toute phallique, jouit pas que, en tout cas que de son inconscient.
Il y a une autre chose, un autre élément pour répondre aussi à Agnès, c'est quand il parle, mais là je ne le retrouve pas, il parle du corps et il dit qu'au fond, sous l'habit, c'est-à-dire sous l'imaginaire du corps, ce qu'il y a, c'est l'objet petit a.
Oui.
Donc, si on prend le corps comme objet petit a, effectivement, c'est pas n'importe quel objet, c'est pas n'importe quel petit a qu'on met dans son lit.
Ça, c'est le fantasme.
Voilà. Oui, oui, oui.
On met le fantasme dans son lit.
pour jouir de son inconscient.
Voilà, voilà. Ça serait très bien. Hein,
Je voulais profiter de cette soirée pour une question, puisque vous m'avez titillé avec mon coït là. Je vais profiter de votre connaissance de la langue française, que je n'ai pas donc suffisamment, pour vous poser une question. Parce que parmi les lectures que j'ai pu faire pour essayer de comprendre un peu cette fameuse phrase et essayer d'apporter quelque chose ce soir, j'ai eu l'occasion de lire un travail comparatif, ça rejoint un peu ce que Jean-Jacques faisait référence aussi, des textes de ces séminaires d'encore, des textes que nous avons accès, nous, là, par l'édition faite par Miller, et d'autres textes de Lally, par exemple, qui a des références, des notes, qui a été à partir des notes. Et là, ils font une remarque, qui, c'est vrai que pour moi, c'était trop subtil, donc je n'ai pas voulu parler, mais vous, vous allez pouvoir m'aider. Parce qu'il paraît que Lacan, en fait, avait dit les choses comme ça, je reprends la phrase de ce soir, d'où part, c'est écrit dans les textes hein, d'encore que nous avons, d'où part ce qui est capable. Il paraît que Lacan aurait dit d'où part ça qui est capable, de façon non nécessaire et non suffisante de répondre par la jouissance du corps de l'autre. Et justement, il paraît qu'entre le c et le ça, il y a un qui parle d'un lieu et d'autres qui parlent d'une chose, c'est ça. Et est-ce que ça peut nous éclairer ou pas du tout cette différence-là? Apparemment, dans les textes du commentaire de Lally, il donnait beaucoup d'importance à cette différence, mais je n'ai pas pu saisir vraiment la soutillesse de...
Moi, je ne vois pas d'où on pourrait savoir, d'où on pourrait savoir s'il a dit ce ou ça.
Oui.
D'où on pourrait le savoir.
Il y a un enregistrement.
Eh ben, on a l'enregistrement, mais entre ce et ça, dans le brouhaha qu'il y avait... franchement,
mais est-ce que ça pourrait faire une différence?
Alors quelle différence phrase, ça ferait
ça,
ça changerait pas grand chose en fait.
D'accord. Non, je crois pas.
Ça qui
non.
est capable de répondre non, ou ce qui est capable de répondre, moi je verrais pas la différence.
Par contre, dans l'édition de Lally, il y a des il soulève des lièvres. Parce qu'il y a des mots qu'ils entendent complètement différemment.
Oui.
Non, mais attendez, c'est un séminaire que Lacan a relu, hein, quand même.
Celui-là,
ouais. Oui, Colette est en train de dire que c'est un séminaire que Lacan a relu, celui-là, donc on reste avec celui-là. Oui, c'est bon.
Bah oui.
OK. Ouais.
Il a
relu.
Oui, s'il a lu, on est d'accord. Bon, on va rester là.
Il est 11h.
Il est 11h. Merci, à la suite dans 15 jours. Qu'est-ce que ça? C'est après les vacances, les prochains.
C'est après les vacances.
Écoute, on a passé l'épreuve. C'est bien.
On a été mal notés par Colette.